Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ta Face B où j'ai le plaisir d'accueillir Christophe aujourd'hui. Salut Christophe.
Salut Geoffroy.
Ravi de t'avoir sur ce podcast Christophe où on va pouvoir en savoir plus sur Ta Face B, tout ce qui te passionne, des histoires personnelles également. Mais comme tu le sais, on va démarrer par Ta Face A et en une trentaine de secondes nous dire ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie.
Parfait, bonjour, bonjour à tous. Oui, alors la compagnie dans laquelle je travaille aujourd'hui s'appelle Trendigo. On fait du paiement et de la gestion d'accès pour les événements avec une application très particulière. Puis moi, j'ai le rôle de CEO aujourd'hui dans cette compagnie-là. Voilà, on est en pleine levée, en plein développement.
Plein développement. Ouais. Ok. Pour ceux qui veulent en savoir plus, dans nos auditeurs auditrices, ils peuvent trouver Trendigo sur Trendigo.
Très simplement sur Trendigo.com.
.com. Ok. Parfait. Super, merci Christophe. On va basculer maintenant sur ta phase B, puis on va démarrer par les sports aujourd'hui. Alors, je crois que tu pratiques quand même pas mal de sports, tu pouvais nous en dire un peu plus.
Écoute Geoffroy, oui, pas mal de sports, l'hiver du ski de fond, et puis l'été plutôt du golf, et puis entre deux, on fait du tennis et du squash avec une bande d'amis très régulièrement, c'est des choses qui nous intéressent bien. Okay. Et j'ai découvert le paddle il y a quelques semaines. C'est intéressant, c'est complètement différent. On est en train d'apprendre ce sport-là. C'est intéressant.
De s'y mettre, ouais. Bah, je vois pas mal dans mon réseau, pas mal de gens qui effectivement passent du tennis au paddle, alors qu'ils arrivent à faire les deux, mais qui trouvent vraiment un intérêt fort au niveau du paddle. Et il y a des terrains à Montréal, en l'occurrence, il y a pas mal d'espace pour en pratiquer, c'est ça ?
Ah ouais, il y en a de plus en plus au centre-ville de Montréal ou à l'extérieur, du côté de Laval. Il y a de plus en plus de choses. Je suis pas encore tombé dedans. Je suis encore très tennis et très squash. Mais on apprend et puis ça viendra.
Okay. Donc à suivre. Au niveau de la nourriture, j'ai vu que tu veux partager un plat préféré qui est typiquement français.
Ouais, c'est vraiment celui, tu sais, c'est le plat d'enfance, celui avec toutes les saveurs qui remontent rien qu'en prononçant son nom. Moi, je suis un vrai fan de la blanquette de veau. Et puis je la prépare aussi, donc c'est un plat qui est riche, c'est un plat qui est plein de crème, c'est un plat qui est tout sauf aujourd'hui bon pour la santé, sauf que non, c'est extrêmement bon pour le moral. C'est un plat extraordinaire.
Bon, ça y est, j'ai faim, Christophe, merci. Parfait, écoute, merci pour ça. Et puis effectivement, ça donne envie de se refaire une bonne blanquette de veau, là, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Ouais, c'est un plat qui se mange aussi en hiver pour se tenir chaud, mais ouais. Ok.
Ah ouais, et puis on se demande toujours comment est votre blanquette.
Oui.
C'est une blague qu'on se fait tous très fréquemment.
On va basculer maintenant sur les écrans. Si on regarde les grands écrans, tout ce qui est film et série TV, ça ressemble à quoi ce que tu. Tes films cultes et tes séries TV cultes?
Je suis un grand fan de tout. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui passe d'un peu étrange, d'un peu surprenant, d'un peu étonnant avec les plateformes. Aujourd'hui, on a accès à des séries qui viennent du monde entier.
Oui.
C'est super riche. Il y a des moyens énormes qui sont mis dedans. Mais les films que j'aime bien, c'est des films comme Kill Bill.
Oui.
Tu vois, des films où en fait il y a des mélanges de genres, où il y a des surprises, où il y a des rebondissements et des choses qui te font rentrer dans un univers particulier. Ça, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Si on passe du côté des séries, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de choses passionnantes, les vieilles séries comme Le Prisonnier ou Cosmos 99 qui sont dans les années 70, 80, 90.
Ouais.
Des séries avec beaucoup d'inventions, avec beaucoup d'idées, beaucoup de surprises, beaucoup de secrets aussi qui te font passer d'un épisode à l'autre avec toujours ce suspense de savoir ce qui va se passer dans le suivant. Et ce que j'aimais bien à l'époque, c'est qu'il fallait attendre une semaine, 15 jours, parfois un mois avant d'avoir l'épisode suivant. Aujourd'hui, tu l'as 4 secondes après, Et donc c'est parfois compliqué de ne pas
C'est vrai.
immédiatement dans la foulée regarder l'ensemble, tu vois. C'est
C'est
ça que
vrai,
j'aimais bien.
même si certaines plateformes se remettent à faire justement cette distance une semaine, donc à sortir des épisodes par semaine, je pense qu'ils reviennent à ce que tu dis sur voilà, la TV, en fait, la TV traditionnelle qui effectivement sortait les épisodes une fois par semaine et même qui commandait 24 épisodes pour l'année parce qu'il y avait au moins 24 semaines de diffusion. Mais ouais, effectivement, je.
Ouais, t'as raison, ça revient, ils les mettent par petits blocs de 3 ou 4, ou une par une, ou des choses comme ça. Je pense qu'ils se rendent compte, effectivement, qu'ils n'ont pas non plus des moyens pour produire 24-7, des millions et des millions d'épisodes, et si tout le monde les consomme très très vite, ben, on est en attente de la prochaine, leur économie doit aussi reposer là, un peu là-dessus.
C'est ça, ça augmente la rétention, c'est sûr. Si je suis obligé de rester
C'est
6 semaines
sûr.
pour avoir ma saison plutôt que juste une nuit. Ok, et au niveau de la musique, un titre que j'adore. Tu voulais nous parler effectivement d'un groupe, ton groupe culte, une chanson culte?
Ouais, alors c'est un groupe culte parce que quand j'étais jeune, il y avait des groupes, tu sais, il y avait des gangs, il y avait des choses comme ça, mais c'était pas des gangs violents qui se battaient pour des drogues ou
Ouais.
pour des choses illicites. C'était des groupes culturels. Et parmi ces groupes culturels, il y avait les Mods contre les punks et contre les rockers. Et alors c'était très passionnant. Nous on était nous on aimait s'habiller comme les Anglais en Mods, et les Who sont un des groupes mythiques de cette génération, où en fait leur fameux titre My Generation est une musique extraordinaire, et tout ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans leur carrière est assez génial, puisque si vous avez l'occasion de regarder des films comme Tommy ou Quadrophenia, qui racontent des histoires là aussi complètement folles. Là, tu vois, Tommy, c'est l'histoire d'un joueur de billard aveugle, sourd et muet qui devient champion du monde. C'est un peu compliqué, mais c'est des musiques envoûtantes, extraordinaires. Et puis My Generation traduit bien aussi tout l'engouement qu'il y avait
À
derrière
l'époque,
ce
ouais.
groupe-là. Mais il n'était pas le seul, hein. Il y avait les Jam, il y avait Madness, il y avait énormément de groupes qui sont restés cultes encore aujourd'hui.
Exact. Et puis My Generation, pour le coup, on le retrouve souvent dans des bandes originales de films aussi. C'est un titre qui est énormément repris,
Ouais, bien
énormément
sûr.
écouté, donc qui a ce côté aussi intemporel. Parfait. Et au niveau des livres, c'est quel livre que tu veux recommander à nos auditeurs auditrices?
Alors moi, je suis très roman à clé. Tu sais,
Ouais.
ces livres dans lesquels on s'appuie sur l'histoire et puis on va rentrer dans la découverte de face, là aussi de face B, de face cachée, de personnages. Si on doit commencer par un de ces livres, le nom de la rose d'Umberto Eco est certainement un des bons sujets. Le film est très connu, mais le livre a beaucoup beaucoup d'aspérités supplémentaires et des détails qui n'apparaissent pas forcément dans le film, qui le rendent haletant.
Oui.
Chaque page qu'on tourne donne envie de passer à la suivante. Et puis c'est un écrivain qui est tellement érudit, qui a tellement de connaissances, que voilà, on se sent presque intelligent aussi à la fin d'un livre comme celui-là.
Umberto Eco, ouais. Et effectivement, moi je n'ai jamais lu le livre en l'occurrence, j'ai juste vu le film, mais tu vois, tu me donnes envie d'aller un peu plus loin dans l'histoire, parce que déjà le film il est quand même hyper captivant, hyper prenant, donc ouais.
Ouais, tu as raison, le film est déjà en soi-même une bonne approche de cette histoire-là.
Et au niveau des podcasts balado, Christophe, est-ce qu'il y en a dont tu t'en mets dans les oreilles régulièrement ou pas?
Non, alors c'est très étonnant, mais non, je
Ok.
j'écoute aucun balado. C'est
Ok.
pour ça que quand tu me demandes quel est celui que j'écoute ou que je suis, ben voilà, ça va être le tien un peu plus, parce que l'idée est intéressante. Mais non, aujourd'hui, c'est pas du tout un domaine que j'ai exploré.
Des livres audio,
Mais là,
sinon? Parce qu'on entend dans les invités que je peux avoir, des fois il y a des livres audio parce qu'il y a moins de temps. Alors tu me dis que t'as le temps pour lire là, mais est-ce qu'il y a non, il y a des livres audio?
non, non,
Ok.
non, non. Et puis vraiment, la lecture pour moi, c'est de prendre un livre papier dans les mains,
Ouais.
le feuilleter, le parcourir, aller au bout de l'histoire. Enfin, tu vois, c'est le geste et la lecture est presque aussi importante que l'histoire elle-même.
Ok.
Donc avoir quelqu'un qui me le lit, ce serait une voie que je pense pas que j'apprécierais.
Ok.
Vois, parce que j'ai besoin d'entendre moi-même les personnages et l'histoire, donc de la faire moi-même dans ma tête,
Ouais.
plutôt que de l'écouter. Je pense pas que je serais à l'aise avec ça.
C'est intéressant comme point de vue. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, mais c'est vrai que j'écoute pas de livres audio et je pense que je te rejoins dans le biais que tu peux avoir aussi, parce qu'une voix, ça peut aussi traduire des émotions et te mettre dans un univers, un contexte que effectivement tu n'aurais pas en lisant le livre. Ouais, je te rejoins totalement sur ton analyse là, en l'occurrence. Donc,
Mais bon, faudra peut-être l'essayer une fois pour s'en rendre compte.
bon, c'est un bon. On va mettre ça dans la to-do list pour les prochaines années alors pour toi,
Ouais, c'est ça,
Christophe.
exactement.
Alors justement, maintenant on va voyager avec toi, Christophe, et tu voulais nous parler d'un voyage mémorable qui t'avait marqué. Donc c'était un voyage en Chine en 1996, c'est ça?
Oui, alors, ouais, parce que des voyages, on en a fait pas mal,
Ouais.
souvent avec mon épouse et puis nos enfants, enfin, tu vois, on a beaucoup voyagé, mais là, on remonte dans le temps, donc on est on est dans les années 80, 96, 97, c'est-à-dire à un moment où la Chine est sur le bord de récupérer Hong Kong, puis par la suite Macao, avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Et juste avant ça, on décide de partir en Chine.
OK.
Et on arrive dans un pays où assez bizarrement, les Occidentaux sont pas encore très présents. Il y a beaucoup de curiosité quand tu arrives dans une ville. Quand tu arrives dans une ville, donc on remonte la Lee River. On se retrouve dans un bateau qui s'arrête en plein milieu, en pleine nuit. On nous fait débarquer dans un second bateau parce que le premier était en panne.
OK.
Et ensuite, on traverse, on arrive jusqu'à destination. Et tout ça avec une foule de gens dans ce bateau, si tu veux, que des étrangers qui voyageaient sac à dos.
C'était vraiment pour les touristes spécifiquement, c'est ça?
Non, 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 c'était
Même
pour
pas?
tout le monde,
OK.
mais disons que le voyage en lui-même faisait que c'était pas très cher et puis c'était facile d'y aller. Donc beaucoup de touristes prenaient cette alternative-là. Et on se retrouve, avant de passer dans le second bateau, tous ensemble à attendre dans une grande salle d'embarquer. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous le Lonely Planet avec nous. Lonely Planet, c'est un guide qui à l'époque était évidemment papier et sur lequel vous avez toutes les écritures dans la langue du pays, donc en chinois et en français, ce qui est extrêmement facile pour justement pouvoir voyager, faire en sorte de demander son chemin à quelqu'un sur place. Et donc c'est un voyage qui était étonnant parce que plein de découvertes, plein de surprises. On s'assied dans un parc, et en fait, il s'avère que ce parc, on s'en était pas rendu compte, c'était un parc où les gens viennent pour préparer leur mariage. Et donc, on a passé 1 heure à prendre des photos avec des bébés dans les bras, et tous les gens faisaient la queue pour venir faire des photos avec nous.
Ah oui,
Où
c'est.
tu vois que des choses très étonnantes comme ça. Tu rentres dans un restaurant, et les gens te mettent au milieu du restaurant, avec tous les autres convives autour, et pour savoir ce que tu allais manger, d'où on a été obligé d'aller dans les cuisines et de soulever les plats pour comprendre ce qu'on voulait nous donner à manger. Enfin, c'est un voyage très étonnant.
Ouais, le tourisme était, ouais, c'est sûr qu'on était quelques années en arrière et tout, donc le tourisme était un peu moins là. Et puis en plus, lui, c'était à l'aube d'un contexte géopolitique qui allait être un peu plus fort. Tu l'as senti à ce moment-là ou
Ouais,
t'étais pas
ouais.
dans les endroits? Ouais, ok.
Enfin, c'était très présent. On a commencé par Hong Kong où là, tu le sentais parce que les gens étaient en
Sûr.
préparation de ça, si tu veux. Donc, les entreprises, on avait des amis sur place qui nous partageaient un peu leurs inquiétudes. T'avais pas encore la pression qui est arrivée après, mais tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait. En Chine elle-même, personne pensait à ça. C'est très politique, donc ça les concernait pas du tout. Mais on était au tout début d'un début de tourisme, pas du tout du tourisme de masse, mais tu allais dans un petit village et tu avais un hôtel qui s'appelait le Holiday Inn, peint au pinceau sur une pancarte, tu vois. Et quand on y va là, ces jours-ci, dans ce même petit village au bord d'une rivière avec des pêcheurs de cormorans, tu as des hôtels qui font des buildings de 4-5 étages avec des maisons en dur et du service haut de gamme. Il y a eu un shift complet en 20-30 ans qui est énorme.
Ouais, donc tu as vu l'avant, l'après, tu y es retourné depuis en Chine, tu as vu
Ouais.
justement ce paysage évoluer.
Ouais,
Ok.
c'est très surprenant c'est très surprenant la façon dont ils ont réussi à faire grandir le pays
Ouais.
sans créer de turbulences fortes à l'intérieur. C'est
Ouais.
très très bizarre. Très bizarre pour nous, hein.
Ouais, bien sûr, non. Après, c'est effectivement la Chine est rentrée après dans une période beaucoup plus faste économiquement, niveau tourisme et autres. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage et ce voyage dans le temps. Et je crois qu'on va rester un petit peu dans le passé avec ton moment marquant de vie où tu voulais nous parler de l'armée que tu as fait chez les parachutistes, c'est ça?
Oula, oui, alors, oui.
On est plus
C'est
sérieux.
toujours marrant, on est plus sérieux, on a toujours des choses comme ça. Tu sais, tu termines tes études, tu commences à travailler, et puis tu reçois un papier qui dit, ah bah, vous êtes attendu
Ouais.
pour votre service militaire. Et donc, bon, comme tout le monde, tu dis, bon, bah, on va se débrouiller pour faire autre chose, pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Et il s'avère que, à l'époque, je travaillais dans une société qui était très proche du général des armées à Paris.
OK.
Et comme j'étais dans la communication, l'idée était de me faire rentrer dans le service communication, donc le CIRPA après. Donc tout se passait bien, tout avait été fait. Et puis au moment où je vais faire les 3 jours, parce que ça commençait toujours par 3 jours pour t'orienter avant de partir, il réalise que j'avais fait une préparation militaire parachutiste quelques années avant pour terminer mes études. Ils ont gagné un an. Le seul problème, c'est que quand tu as fait une préparation militaire parachutiste, tu dois faire ton service militaire chez les parachutistes. C'est pas une... Et donc, tu pouvais avoir tous les appuis que tu voulais, c'était pas possible de changer. Ce qui fait que je suis parti à Toulouse, puis à Pau, puis à Toulouse. Où j'ai passé l'ensemble de mon service militaire à sauter, à faire des choses qui nous paraissent impossibles ou improbables avant qu'on commence, et qui sont des bons souvenirs finalement aujourd'hui,
Ouais.
avec le temps, le recul. C'était assez étonnant. Et parfois tu regrettes que nos enfants ne l'aient pas connu, mais bon, en même temps, c'est une autre vie, une autre période.
Et t'as ressauté depuis, mais pour le plaisir, dans un autre contexte et une autre dimension?
Non,
Non?
non,
Ok.
non, non. Il y a une. J'ai deux de mes meilleurs amis qui sont décédés
Ok.
en faisant du parachutisme. Quelques années après, ça m'a complètement refroidi.
Ok, ouais, j'imagine.
Et en fait, c'est idiot, mais souvent les décès en parachute sont liés à l'avion. C'est très souvent au moment du décollage qu'il peut se passer quelque chose.
Ok.
Donc tu as cette appréhension-là qui est restée, mais la sensation sous voile est quelque chose, ou de sortir de l'avion, la première sortie de
Sous,
l'avion, ce sont des sensations qui sont extraordinaires, voilà, que parfois je rêve de revivre.
ouais.
Mais non, non, ça ne s'est pas passé.
Ok. Ok. Écoute, bah peut-être dans ta to-do list, si on regarde un peu les prochaines années, on a parlé de t'essayer un livre audio déjà. Ça c'est noté.
Mais ça ne devrait pas être trop compliqué.
Ça va être fait juste après ce podcast. Et si on regarde les prochaines années, c'est quoi que tu as sur ta to-do list? Qu'est-ce que tu as envie de faire là prochainement?
Écoute, plein de choses. Continuer à découvrir des gens, continuer à m'impliquer dans des projets. Moi, je suis un homme de projet. Tu vois, on est en levée, donc si le financement arrive sur Trendigo, ça va être de pousser la compagnie. Si on n'a plus de financement, ça va être de repartir sur un autre projet. Ce que aujourd'hui je ne pense pas, mais on est dans un monde où tout est fait d'incertitudes, donc faut toujours se projeter un peu. Et puis voilà, et puis continuer à rencontrer du monde, à découvrir d'autres lieux.
Et justement, je pense que ça c'est lié aussi à ton anecdote. On finit toujours l'épisode par une anecdote que pas ou peu de personnes autour de toi peuvent connaître, en tout cas dans ton environnement plus professionnel. C'est lié effectivement à de la géographie. Tu peux nous la partager?
Ah, tu veux dire nos mouvements successifs?
Ouais, enfin, d'où ta famille vient en fait,
Ouais.
et d'où
Ah,
tes enfants
donc
sont nés.
absolument. Donc en fait, donc, moi je suis né en France. Nos enfants sont nés aux Antilles. en Guadeloupe, où une grande partie de la famille vit encore. Et c'est ancré dans leurs gènes et dans les nôtres. On y a passé environ 16 ans avant d'arriver au Québec.
OK.
Et donc, 16 ans, c'est beaucoup, c'est presque la moitié de notre vie passée sur place, beaucoup de, avec le rhum, avec le soleil, avec la plage, avec beaucoup de travail, d'intention et puis de création. C'est un lieu qui est très important pour nous, pour nous ressourcer, pour beaucoup de choses.
Excellent. Et un contraste avec le Québec, en l'occurrence. Tu le dis, hein, tu parlais des températures, du soleil, etc.
Oui, à ceci près que, enfin, aujourd'hui, on ne peut pas prendre cette année comme exemple, mais dans les Caraïbes, tu vis à plus 33, 34 degrés toute l'année.
Toute
C'est
l'année.
très extrême, c'est très dur pour le corps. Quand tu vis au Québec, tu es souvent sur des températures négatives pendant longue période, et ça aussi, c'est assez dur. Donc, il y a certains liens, et puis les habitants que nous sommes des Caraïbes et du Québec ont aussi des histoires communes, des bouts de langue, des expressions. Mais enfin, il y a beaucoup de choses
En commun.
qui lient finalement ces deux endroits-là.
Super, bah écoute, merci beaucoup Christophe pour le partage et puis merci pour ta participation à cet épisode de Ta Face B. Alors merci Christophe.
Merci, c'était inattendu, et puis à bientôt, Geoffroy.
Merci beaucoup Christophe et à tous nos auditeurs et auditrices. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Face B. Je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là. Bye bye.